Vous écoutez Erdiwa sur la fréquence 107.5 ou sur www.rdwa.fr. Plantule et compagnie. Une émission qui permet de découvrir ou redécouvrir chaque semaine une plante de nos contrées que l'on peut cueillir, manger ou transformer. Bonne écoute.
Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.
Aujourd'hui nous découvrons
tout ce qu'il y a à savoir sur le gui. RDWA Radio Diwa.
Approchez, veuillez accueillir le géant, l'imperturbable, le splendide, l'incroyable, le héros, le Guy. Vous l'avez peut-être rencontré au hasard des chemins. Il est un personnage très particulier, n'est-ce pas?
Monsieur le Guy, je vous prie de vous présenter.
Ouais. Bon, bah... Voilà, alors je m'appelle Guy. Je suis un arbuste à tige ligneuse. J'ai de nombreux rameaux arrondis, articulés par une succession de parties ligneuses. Mes rameaux sont divergents, ils s'écartent de mes tiges... À la base de mes rabots, il y a des bractées squamiformes. J'ai donc deux petites feuilles qui ressemblent à deux petites écailles à l'embouchure de mes rameaux et de mes tiges. Mes feuilles sont opposées, elles sont l'une à côté de l'autre sur un même niveau de la branche, simple et entière, au contour lisse. Mes feuilles sont sessiles. Elles se rattachent à la tige simplement, sans pétiole. Comme elles ont une forme allongée, on dit qu'elles sont oblongues. Et comme leur apex, l'extrémité des feuilles est arrondie, en angle obtus, on dit qu'elles sont obtuses. On ne les voit pas, mais cinq nervures longitudinales s'étendent de part et d'autre de mes feuilles épaisses, au cœur de leur chair. Je ne crains pas vraiment l'hiver. Mes feuilles sont donc persistantes et ainsi j'apparais bien visible à la cime des arbres dévêtus. Mes fleurs s'épanouissent au mois de mars, avril et mai. Elles sont jaunes. Verdâtres, toutes petites et sessiles, elles aussi, collées aux bifurcations supérieures de mes rameaux et soutenues par des bractées. Comme je suis dioïque, je suis ou mâle ou femelle. J'ai donc besoin d'une pollinisation croisée menée par les vents et les insectes vecteurs. Mon fruit est de couleur blanche et d'aspect bassiforme. Il ressemble à une petite baie qui se développe en été et mûrit au cours du mois de décembre et de janvier. Mon fruit, petite sphère blanchâtre, est monosperme, c'est-à-dire qu'il renferme une seule graine. Un fruit, une graine. La texture visqueuse qui renferme ces petites boules se nomme la vicine. Elle va permettre de fixer mes graines aux branches supérieures de l'arbre qui m'accueille lorsque celle-ci tombe.
Guy, doux prénom.
Oh yeah.
Vous le voyez en levant vos têtes vers le ciel. Il est cette boule verte. Semblable à un nid d'oiseau gigantesque, on le voit souvent comme un dévoreur d'arbres. Mais il n'est pas si sombre, le Guy est un ami lui aussi.
Attention, premier message.
La dissémination du Guy. Le Guy peut se propager localement lorsque les fausses baies, très mûres, tombent naturellement. Ainsi, les graines se collent, aidées par la vicine, aux branches inférieures ainsi qu'aux buissons et arbustes alentour. Cependant, d'autres chercheurs ont réfuté cette avance. Du moins, ils considèrent que cette propagation est minime et qu'en réalité, ce sont presque uniquement les oiseaux qui permettent la dissémination du gui à plus large échelle. Henri Frochot et Georges Salé ont écrit ensemble une étude « Modalités de dissémination et d'implantation du gui », au sein de laquelle je trouve de précieuses indications. C'est dans ce dossier que j'ai pu connaître quels sont les animaux qui agissent activement pour l'expansion du gui. Les auteurs font également mention du manque de données scientifiques à ce sujet. Ainsi, ils développent l'étude de deux oiseaux dont le rôle est majeur, la fauvette à tête noire et la griffe d'reine, et évoquent brièvement d'autres oiseaux qui viennent picorer dans les touffes de gui, tels que le geai, la pie, le casse-noix, ainsi que de petits mammifères tels que la marthe et l'écureuil. Seulement, il est difficile de définir si ces animaux rejettent les baies après leur consommation, exemptes de pouvoir germinatif ou non. Voici quelles informations nous donnent Frochot et Salé concernant la fauvette à tête noire. Sylvia Atricapilla. Elle s'installe avec la baie sur un rameau voisin de la touffe de gui. Tandis qu'elle maintient la baie contre l'écorce avec sa patte, elle retire et avale la partie externe de la pulpe adhérant au tégument. La graine ainsi dégagée reste collée sur l'écorce, parfaitement intacte et prête à germer. La fauvette peut s'attaquer ainsi à une dizaine de baies en 20 minutes. Il est probable qu'elle répète l'opération plusieurs fois par jour, car la digestion est rapide. Ainsi, Grazi a observé un couple de fauvettes semant environ une centaine de graines par jour. La fauvette à tête noire est principalement insectivore. Elle s'attaque aux baies de gui probablement lorsqu'elle ne trouve pas suffisamment d'insectes, c'est-à-dire pendant la saison froide. Ainsi, dans la partie sud de la France, où elle passe volontiers l'hiver, c'est une migratrice partielle, elle doit implanter un nombre important de graines. Plus au nord, c'est seulement au cours du premier mois qui suit son retour de migration, vers mars-avril, qu'elle se nourrit de gui. Et la grive draine, Turdus viscivorus. La grive draine est connue depuis longtemps comme agent de transport du gui, puisque Pline en parlait déjà. Elle prend son repas à l'intérieur des touffes de gui, elle avale les baies entières, digère en partie la vicine et rejette séparément dans ses fientes les téguments externes de la baie et la graine entourée d'une couche mince de vicine. Les graines ainsi rejetées adhèrent parfaitement aux supports sur lesquels elles sont déposées et sont prêtes à germer. La grive draine mange de 6 à 10 baies à chaque repas et les digère en une demi-heure environ. Le gui est probablement la base de sa nourriture pendant toute la saison froide. Une partie des fientes est rejetée sur les perchoirs favoris de la grive où l'on voit s'étaler alors des chapelets de graines. En tenant compte de sa vitesse de vol, de l'ordre de 35 à 45 km/h et du temps nécessaire pour le transit intestinal des graines, la grive ne peut théoriquement, propager le gui par ses fientes qu'à une vingtaine de kilomètres maximum de l'endroit où elle l'a ingéré. Mais cette performance doit être peu fréquente. Il est probable que son rayon d'action se limite en fait à quelques kilomètres autour des arbres nourriciers. «
Ces oiseaux vecteurs qui propagent le gui ne sont pas les seuls à s'en nourrir. La mésange bleue, Parus caerulus, ainsi que d'autres espèces de mésanges, mangent les graines de gui. Elles peuvent donc, pour se nourrir, limiter très largement la propagation du gui. Elles sont un agent régulateur. Les limaces, certains champignons et insectes ont probablement un rôle de régulateur semblable, mais à ce sujet également, les auteurs précisent que les recherches ne sont pas suffisantes. Pour germer, les graines de gui n'interagissent pas spécialement avec l'arbre hôte. On dit qu'elles sont autotrophes, capables d'élaborer leur propre substance. Cependant, elles dépendent de la texture sur laquelle elles vont glisser et des conditions climatiques. Elles ont besoin d'une période de dormance durant l'hiver et de lumière pour pousser au printemps. Quand je tape sur Google le mot « gui », une définition courte m'apparaît en première page. « Gui », nom masculin, plante parasite à baie blanche qui vit sur les branches de certains arbres. Concentrons-nous un petit peu sur le caractère parasitaire du gui. J'aimerais rappeler dans un premier temps que le gui, même s'il suce la sève des arbres qui l'accueillent, n'épuise pas leurs ressources. Très anecdotiques sont les cas d'implantation de gui conduisant à la mort de l'arbre. Généralement, il a été remarqué que la mort survient à la suite d'un événement climatique singulier, un cas de sécheresse importante par exemple. Et oui, il est clair qu'un arbre affaibli ne peut que difficilement survivre s'il héberge, en plus de sa propre carcasse, une colonie de petits guis dans ses branches. Le gui a des conséquences sur la croissance de l'arbre hôte, qu'il va diminuer, et sur la qualité du bois, qu'il va détériorer. Cela est dû au fait que le gui va puiser en l'arbre les ressources minérales nécessaires à sa propre croissance. Ainsi, il consomme ce que l'on nomme la sève brute, c'est-à-dire les sels et les minéraux de l'hôte. En creusant davantage sur Internet, je rencontre le mot épiphyte, qui englobe les organismes vivants qui croient par le biais d'autres plantes et qui se nourrissent en partie grâce à elles. Le gui n'est pas un parasite à proprement parler, comme me l'a dit la définition Google. Justement parce qu'il ne trouve pas les ressources nécessaires à son développement uniquement en l'arbre avec lequel il va cohabiter, mais aussi dans la lumière. Le gui est donc un organisme hémiparasite. Il est indépendant en termes de synthèse chlorophyllienne, puisqu'il possède sa propre chlorophylle. Et ainsi, il ne va pas la soutirer à l'arbre.
Encore!
Approchez-vous davantage, vous êtes trop loin de moi encore. Voilà, maintenant que nous en savons un peu plus sur le gui, je vous prie de bien écouter la partie suivante.
Mesdames, messieurs, le gui est originaire
des zones tempérées de l'Europe. On le trouve maintenant en Afrique du Nord, dans l'ensemble de l'Europe, en Asie mineure et au Proche-Orient, dans le Caucase, en Extrême-Orient, au Japon et en Corée, et dans le sous-continent indien, ainsi qu'en Indochine. Il apprécie donc les climats tempérés, des plaines, collines et montagnes, jusqu'à une altitude de 1300 mètres, de l'hémisphère nord. En revanche, il est rare de l'observer dans les régions méditerranéennes. L'on trouve trois sous-espèces physiologiques de Viscum album. Le gui des feuillus, Viscum album mali, s'installe auprès de l'amandier, de l'aubépine, de l'érable, du peuplier, du pommier, du saul, du sorbier, du tilleul, etc. Le gui du sapin, Viscum album abietis. Le gui du pin, Viscum album pini. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas, en France, également réparti sur le territoire. Alors que dans une région, il va être très friand de telle essence d'arbre, cela ne va pas être le cas dans une autre région, où il préférera massivement une autre essence. De même, il peut être très présent dans une zone et absent quelques kilomètres plus loin. Cette répartition, qui nous donne l'illusion d'être hasardeuse, nous donne aussi du fil à retordre pour comprendre les mécanismes de propagation du gui. J'ai pu lire, dans un vieux dossier du ministère de l'Agriculture, nommé « Les dommages causés par le gui », quelques hypothèses.
En dehors de la question de race spécialisée, la distribution du gui ne peut s'expliquer qu'en faisant intervenir d'autres facteurs qui justifieraient son abondance en certaines localités ou ses préférences dans une région pour une essence qu'il semble épargner ailleurs. on peut admettre d'abord l'existence dans une même essence de races différentes, les uns acceptant l'installation du parasite, les autres plus ou moins réfractaires. Le fait a été établi notamment pour le poirier et explique les fortes divergences d'appréciation qui se manifestent suivant les localités au sujet de la fréquence ou de la rareté du gui sur cet arbre. On a cherché également une relation entre la possibilité d'existence du gui et les conditions de nutrition minérale de l'arbre qui le porte, nutrition qui, elle-même, est sous la dépendance de la composition chimique du sol. En Belgique, on a constaté que le gui est plus abondant dans les régions calcaires et n'existe que là où l'analyse révèle une teneur en chaux d'au moins 1 pour 1000. Enfin, en raison du mode de dissémination des graines de gui, on a établi un rapprochement entre la fréquence locale de certains oiseaux et la présence du gui. On a constaté une certaine coïncidence entre les chemins suivis par les espèces migratrices comme la griffe d'renne et la répartition du gui des pins. Pratiquement, le gui n'est assez abondant pour être nuisible que sur quelques essences. Le pommier, parmi les arbres fruitiers, les peupliers de grande culture et le sapin parmi les arbres forestiers. L'idée selon laquelle le gui est une espèce nuisible est fausse.
Encore !
Enfin, bon, disons que si on imaginait suivre la logique pourrie des gens pourris, oui, le gui fait trembler nos monocultures de fruitiers. Nos peupliers que l'on plante pour épuiser les marais, nos forêts superficielles de sapins qui solidifient notre commerce de bois exacerbé. Oui, le gui les mange à petit feu. Mais il est un aliment sensationnel des oiseaux et d'autres. Il est peut-être secrètement un régulateur écologique. Il ne faut pas croire que la nature crée par maladresse. Le gui a bien sa place dans nos forêts et sa présence devrait plutôt nous faire remettre en question nos pratiques de culture et nos attentes. Imaginez-vous, druides, vous arpentez les forêts à la recherche du gui magique, arbuste de la lune. Vous le cherchez, serpe d'or à la main, épanoui sur le chêne, arbre du soleil, symbole de force et de puissance. Les druides gaulois prenaient soin de le récolter le sixième jour de l'année celtique, sixième jour de la lune, jour sacré porteur d'une grande force. Vous prononcez des chants mystiques. Le gui, grand immortel, reste vert toute l'année et peut survivre même à la mort de son arbre hôte. Il est le symbole de la vie perpétuelle. Chargé de vertus médicinales et magiques, il était utilisé par ses prêtres pour bénir l'eau et la purifier. Cette eau redistribuée guérissait de toute maladie. Chasseur des mauvais esprits, purificateur de l'âme, le gui guérit, assure la fécondité des troupeaux comme des humains et protège des méfaits de la sorcellerie. Dans les mythologies scandinaves et germaniques, le gui est associé à la déesse Freya, déesse de l'amour. Il est alors un symbole de fertilité. Dans de nombreux pays, le baiser sous une touffe de gui s'est inscrit dans les traditions. Il permettrait de construire un amour pérenne, d'assurer longue vie et bonheur. Voici les vertus de cette belle plante des temps froids. Le gui agit sur la pression artérielle, il la régule. Ainsi, les personnes touchées par l'hypertension et qui présentent des maux de tête, des vertiges, des angoisses persistantes, des sensations d'oppression, d'essoufflement, de gêne cardiaque ou encore des palpitations, devraient y recourir. Il est également un très bon diurétique. Utilisé par voie interne ou externe, il agit en cas de goutte, de rhumatisme, de rétention d'urine, de calcul urinaire ou encore de colique néphrétique. Son caractère antispasmodique permet de l'utiliser lors des crises d'asthme et d'épilepsie. Et on lui reconnaît des vertus contre les saignements et les hémorragies. Une thérapie par le gui en cas de cancer serait d'une grande aide. Il jouerait un rôle dans la diminution des effets toxiques de la chimiothérapie et permettrait une amélioration de l'état physique et psychique en général. Les études scientifiques sur l'action antitumorale du gui sont contradictoires et peu approfondies. Mais les études scientifiques sur l'action antitumorale du gui sont contradictoires et encore peu approfondies. En tout cas, on peut au moins lui reconnaître une fonction immunostimulante puissante.
il ne causera pas de tort. Sauf en cas d'abus, car le gui reste une plante toxique lorsqu'elle est consommée à forte dose. Donc, attention, ce sont les baies surtout qu'il faut éviter de consommer. La récolte du gui, dans le cas d'une utilisation médicinale, se fait à la fin de l'automne, avant l'apparition des baies. Si elles sont formées, on peut les retirer. Il faut profiter d'un coin d'ombre pour faire sécher les rameaux et les feuilles. On pourrait en faire des infusions, des décoctions, des macérations, du vin, les réduire en poudre, en faire des teintures, des extraits, des bains de pieds, de mains, des douches vaginales. Beaucoup de choses sont possibles avec le gui. Les recherches que j'ai menées sur cette plante m'ont passionnée. Si cette petite émission vous a plu, sachez que des tas et des tas d'infos sont dispo et que je n'ai fait qu'évoquer différentes thématiques sans en donner tous les détails. Je vous souhaite une bonne semaine et vous espère une bonne cueillette de gui.
Ouais,
et je pleure et je m'en vais. Au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de-ci, de-là, pareil. Feuille morte.